Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Lors d'un récent voyage au Cambodge, j'ai rencontré Davrong. Touché par l'histoire de son pays et par son histoire personnelle, j'ai voulu lui donner la parole. Davrong a vécu l'enfer des Khmers rouges, leur arrivée dans son village, l'exode, le travail dans les champs. Il fait partie du miracle des survivants. Cette émission est touchante et vraie. Davrong s'exprime avec nous en français, une langue qui lui a permis de se construire et de trouver du travail. L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». L'idée, c'est vraiment à travers cette émission radio d'élargir un peu sa vision sur le monde. Je donne la parole aux gens que je rencontre, soit en France sur des festivals, mais aussi à l'étranger, à l'international, avec les gens que je rencontre. Ça peut être des voyageurs, mais aussi des francophones, comme c'est ton cas, Yavong. Donc Yavong, on va prendre le temps de te rencontrer dans cette émission. Je sais peu de choses sur toi, mais je sais, Yavong, que tu es guide francophone, que tu travailles pour différentes agences, que tu parles parfaitement notre langue, que, a priori, tu me disais que tu as appris par hasard. Donc on va revenir un petit peu dans ton histoire personnelle. À quel moment, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que tu t'es mis à apprendre le français?
Je suis un Cambodgien, précisément je suis Phnom Penhois, c'est l'habitant de Phnom Penh. Je suis né ici, dans cette ville. Quand la guerre civile a commencé en 1970, j'avais 7 ans bien sûr, mais j'ai déjà commencé à aller à l'école. Avant 1975, quand les Khmer Rouges sont arrivés au pouvoir, j'étais déjà à la classe de 6e, c'est-à-dire la première année au collège. J'ai déjà appris pendant 3 ans avant d'entrer dans le collège. Moi, bon, c'était pas grand-chose, le français, on fait à peine 2 heures par semaine. Donc, à l'arrivée au collège, j'ai déjà connu un petit peu le français, je pouvais lire les textes faciles, etc. Quelques conjugaisons de base, etc. Après 4 ans de l'enfer des Khmers Rouges, pas seulement des mecs français que j'ai appris et j'ai oublié, même la langue nationale, la langue khmer, j'ai beaucoup oublié, mais avec le nouveau gouvernement, qui était encore communiste, ça c'est une vérité, j'ai recommencé mes études. Par contre, comme langue étrangère introduite dans le programme scolaire, au lieu d'avoir anglais et français comme avant la guerre, on a introduit dans les écoles la langue vietnamienne et la langue russe.
Non, on va ralentir. Donc tu parles de l'enfer des Khmers Rouges. Donc effectivement, on est ici au Cambodge, qui a été marqué par une époque relativement sombre de son histoire. Tu parles de 75 à l'arrivée des Khmers Rouges ici à Phnom Penh. Donc toi, à cette époque-là, tu es relativement jeune, donc tu as connu cette époque. Rares sont ceux qui aujourd'hui peuvent encore témoigner de cette époque-là.
Oui, quand les Khmers Rouges sont arrivés au pouvoir en 75, précisément 17 avril 1975, j'avais 12 ans. Et j'ai traversé les Khmers Rouges, le régime des Khmers Rouges, entre l'âge de 12 et 16 ans.
Et donc là, quand les Khmers Rouges arrivent au pouvoir, tout s'arrête. Toute ta vie est complètement transformée, chamboulée. Tu parlais avant, tu allais au collège, où tu apprenais la langue française. Et à partir du moment où les Khmers sont arrivés, tout change.
Quand le pays tombait dans les mains des Khmers Rouges, toutes les structures, les systèmes, avant l'éducation, sanitaire et autres, c'était tout supprimé. Tous les habitants de grandes villes, y compris Phnom Penh et autres, mais à mon avis, pas seulement eux, les autres aussi, sont tous transformés en ouvriers ou, à vrai dire, en esclaves des Khmers Rouges qui travaillaient forcés dans les différents camps. Voilà. Il n'y a ni d'école, ni d'hôpital, il n'y avait rien. Donc, pour mes études, c'était complètement abandonné. Voilà. J'obligeais de travailler dans les champs au lieu d'avoir les crayons, les stylos, etc. J'obligeais de porter les seaux pour porter la terre, prendre les pioches dans les mains pour creuser les canaux, comme tout le monde.
Mais là, tu es encore avec ta famille quand les Khmers arrivent, les Khmers Rouges arrivent. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux rester avec tes parents?
Oui, au début, on était ensemble. pendant la déportation, tout le monde sortait en famille. Et après, les Khmers rouges ont déplacé plusieurs fois des gens. Voilà. À la dernière endroit où on était, ça y est, les familles ont été séparées. Les hommes travaillaient dans les camps des hommes, les femmes dans les camps des femmes et les enfants dans les camps des enfants. Donc ça y est, la famille a été complètement écrasée, si vous voulez. Donc ça est devenu individu, c'est comme ça. J'étais pendant, je ne peux pas bien me rappeler, pendant des mois, 6, 7, 8 mois, hors de famille, c'est ça. Et c'était pas moi tout seul, tout le monde était pareil.
Javong, donc tu parles notre langue, tu as vécu une histoire que nous, on connaît peu finalement, en tout cas ma génération en France. Hein, donc, mais qui, tu parles des Khmers rouges, mais qui sont les Khmers rouges? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, à travers cette émission radio, ce qui s'est passé? Comment est-ce que les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir? D'où viennent-ils? Et qu'est-ce qui les a poussés à complètement transformer la société?
Qui sont les Khmers rouges? Alors ça, c'est une très bonne question. Et ce que j'ai vu avec mes yeux, j'ai entendu raconter par mes voisins, mes amis, nous dans le pays, ces Khmers rouges, ils ne sont que des Cambodgiens. Comme son nom indique, Khmer cambodgien et rouge. Ici, ça veut dire communiste. Voilà. Donc c'était le groupe des communistes, voilà, dont à la tête, il y a un certain homme, même on peut dire intellectuel, hein, certains bien diplômés, certains d'autres non, comme le cas de Pol Pot, etc., à la tête. Voilà. Et après, imaginez-vous, il y a une administration pour gérer un pays, hein, qui est Khmer Rouge. Et parmi lesquels, je sais, il y a certains qui étaient intellectuels, certains d'autres complètement illettrés. Et voilà. Donc ce sont ces gens-là. Si on parle de l'administration inférieure des Khmers Rouges, ils étaient plutôt des paysans.
Mais très minoritaire par rapport aux Khmers.
Minoritaire, comment on peut dire? Parce que, imaginez-vous, un gouvernement avec son administration, hein, les administrateurs et leurs familles, donc ça fait quand même une population assez importante.
Parce que là, on est dans les années 1970-75. Mais en 1973, est-ce qu'on a une idée du nombre de Khmer ici au Cambodge? La population Khmer, qu'est-ce qu'elle représente et que représentent à peu près les Khmer rouges?
Au début de la guerre civile, en 70, on avait à peine 7 millions d'habitants. Et pendant cette première guerre civile de 5 ans, entre 70 et 75, selon les différentes sources, les médias, etc., il y avait entre 800 000 à 1 million de morts. Donc, à l'arrivée aux Khmers rouges au pouvoir en 75, je pense personnellement qu'il n'y avait pas plus de 6,5 millions d'habitants au Cambodge.
Voilà. Donc là, on parle de deux choses différentes, de la guerre civile entre 70 et 75 et l'arrivée des Khmers rouges en 75. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque de guerre civile?
L'époque de la guerre civile? Oui, c'était visiblement, c'était la guerre entre régime Phnom Penh, pro-américain. Bien sûr, c'est très évident, hein, il y a des aides américaines, militairement bien sûr. Et dans la jungle, il y avait des Khmers rouges, la fois des communistes. Donc c'était plutôt la guerre entre les Khmers et les Khmers, de côté Phnom Penh. Et ils ont une autre idéologie, et les autres, dans la jungle, les soldats des Khmers rouges, avec idéologie communiste, c'est ça.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Oui, toi, entre 70 et 75, donc là, tu étais un enfant. Tu avais 4, 5, 6, 7 ans. Hein. C'est là où tu allais encore au collège?
Oui, oui. Pendant la guerre 70-75, j'avais de 7 ans à 12 ans. Voilà. Je suis allé à l'école à Phnom Penh normalement.
Donc là, est-ce que tu étais impacté, toi, enfant, par cette guerre civile?
Non, il n'y avait pas grand-chose comme répercussion de la guerre civile. C'est la vie à Phnom Penh. Il n'y avait ni bombardement, ni bataille ou les attaques du commando. Bon, il y en a de temps en temps, mais c'était vite fait. Bien que vers la fin de cette guerre civile, avant 1975, les Khmer Rouges ont tiré les roquettes sur Phnom Penh, etc. Mais ça ne perturbait pas trop la vie de la ville. Les écoles n'étaient pas fermées, ça continue normalement. Ouais, c'est ça. Donc on peut dire que la vie c'était encore normale pendant cette guerre à Phnom Penh.
C'est vraiment à l'arrivée des Khmer Rouges en 1975 où là ton quotidien a complètement changé.
C'est à partir de l'arrivée des Khmer Rouges à Phnom Penh que la vie dans tout le pays, pas seulement Phnom Penh, a changé. Voilà, ils ont commandé à vider Phnom Penh et après ils ont déplacé les gens, par exemple les gens dans le village à la campagne, ça a été envoyé au village C, Z, etc., donc mobilisé comme ça. Je ne sais pas trop, mais ce que j'ai compris auprès de différents bouquins, des grands auteurs, des grands amateurs sur le pays, ils ont fait comme ça, c'est pourquoi ? C'est pour que les gens abandonnent tous les biens et ils sont devenus tous pauvres. En même temps, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de riches des pauvres. Donc les gens sont égaux économiquement. Voilà. Parce qu'après plusieurs déplacements, on oblige d'abandonner au fur et à mesure les choses. Voilà. Donc, et ça y est, une vie, on peut dire, d'esclavage total a été pratiquée au Cambodge, dont les chefs, les patrons étaient l'administration des Khmer Rouges, connue sous le nom de Angka, A-N-G-K-A. Angka, c'est un terme cambodgien depuis longtemps, et ça se dit en français « organisation », mais ici, inventé par les Khmer Rouges pour signifier les chefs, les supérieurs, c'est ça.
Et là, on parle de l'année zéro.
Voilà. Oui, c'était l'année zéro. Il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien. Que des camps de travail. En général, à partir de 1976, même la cuisine familiale a été supprimée et remplacée par la cuisine collective. Ça y est. Donc, notre vie était vraiment dans les mains des Khmer Rouges. Ils veulent nous tuer à n'importe quel moment ce qu'ils voulaient. C'est ça.
Toi, enfant, quel souvenir tu gardes de cette époque et qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous, auditeurs, par rapport à cette époque que tu parlais d'enfer ?
Ah ben oui, un enfer terrestre, c'est un terme, à mon avis, c'est pas du tout exagéré. Si on fait de la description sur les vies au temps des Khmer Rouges. Ici, nous, on dit l'enfer, c'est-à-dire un endroit où les âmes des gens qui ont commis trop de péchés, torturés pour récompenser les péchés qu'on a commis dans la vie. Au temps des Khmer Rouges, c'était ça, c'était les tortures. Voilà. Pas seulement la torture physique, mais mentalement, il y a aussi, il y a le harcèlement mental, physique des Khmer Rouges. Imaginez-vous, dans un village, c'était le chef de village qui avait le droit de décider sur la vie des gens dans le village. Si vous avez fait des bêtises ou vous n'êtes pas aimé par le chef de village, donc il peut vous torturer, souvent même par plaisir. Voilà. Et surtout les gens qui ont la peau blanche, définis par eux comme les capitalistes, les féodalistes, c'est ça. C'était vous qui, depuis des générations, qui ont exploité les paysans, les pauvres, les paysans qui sont eux. Donc maintenant, c'est le temps de se venger de ces exploiteurs de la société. Là, voilà. Donc, toutes sortes de harcèlement mental, physique, voilà. Et c'est ça.
Mais ce que j'ai du mal à comprendre avec quand je t'écoute, c'est souvent dans des guerres, ça oppose deux peuples, deux cultures, deux religions différentes. Et là, c'est vraiment des Khmers contre des Khmers.
Idéologies différentes. C'est pas des religions différentes. Je suis d'accord, les Khmer Rouges, ils sont athéistes. Ils n'ont pas de religion. Tous les soldats des Khmer Rouges ou l'administration des Khmer Rouges, le peuple des Khmer Rouges, on va dire dans l'ensemble, ils croient sur un seul Dieu, c'est le chef, Angka. Voilà, donc il n'y a pas d'autre dieu. C'est pourquoi ils ont rasé, ils ont démoli les pagodes, qui est le symbole de la religion de la majorité absolue des Cambodgiens, et aussi les autres, les mosquées, les églises, etc., rasées, parce qu'ils ne croyaient pas à des religions. Donc les Khmer Rouges, ils sont athéistes. Voilà. Et nous, tomber dans les mains des Khmer Rouges, on est obligé de vivre dans cette situation. Voilà, religion, on pouvait plus pratiquer parce qu'il n'y a plus d'endroit et surtout, ce n'est pas autorisé par les Khmer Rouges. Voilà, donc on est obligé, ce qu'on a pensé au temps de Khmer Rouges, comment on peut faire pour trouver de quoi à manger pour survivre un jour par jour. Et c'est tout.
C'est ça, c'est vraiment la vie au jour le jour. Donc là, tous les gens de Phnom Penh ou les gens des villes sont poussés vers l'extérieur dans les campagnes. Hein, et donc tous les gens éduqués, lettrés, se retrouvent comme des paysans à devoir planter du riz et essayer de trouver des moyens de subsistance et de survie.
Voilà. Ce que j'ai entendu expliquer après par... Toujours comme les grands amateurs du Cambodge, bon, ils sont pratiquement étrangers. Il y a des Français, Américains, Australiens, etc. Les intellectuels de l'ancien régime, voilà, sont définis par les Khmer Rouges comme les gens incorrigibles. Incorrigible ici, ça ne veut pas dire que c'est pas seulement inutile, mais ça pourra être même dangereux pour eux. Donc ils ne voulaient pas ces gens-là. Ils sont trop contaminés par les pensées des Occidentaux, etc., etc., incorrigibles. Donc le but est de supprimer tous ces gens-là en attendant l'arrivée de la nouvelle génération dans leur philosophie. Et bien, c'est pourquoi, comme résultat, ils ont bien fait d'ailleurs, les Khmer Rouges, ils ont éliminé presque tous les intellectuels du pays. Voilà. Sauf certains intellectuels cambodgiens, les docteurs, ingénieurs, certains qui restaient dehors du pays, en France par exemple, voilà, qui ont survécu, mais eux, voilà, ils ont perdu presque tout le membre de la famille qui restait dans le pays. Voilà. Donc après les Khmer Rouges, retrouver quelqu'un lettré pour travailler dans l'administration, ce n'était pas évident. C'est pas évident. Mais...
Parce que là, pendant le régime, le règne des Khmer Rouges, un tiers de la population cambodgienne est décédée, a disparu, c'est ça je pense. Hein, les chiffres, c'est combien de Cambodgiens sont décédés sur les 7 millions que comptait le pays.
Alors, c'est, comme j'ai déjà dit au début des Khmer Rouges, ce n'était pas 7 millions, peut-être c'est 6 millions et demi à peu près. Voilà. Et le nombre de victimes dans les mains des Khmer Rouges reste encore controversé. Il y a plusieurs sources qui donnent des chiffres très variés. Certains disent 700 000, certains d'autres 1 million et demi, etc. Mais je vous donne deux chiffres tout simplement. Le gouvernement aidé par l'armée vietnamienne qui a réussi à chasser Pol Pot de pouvoir le 7 janvier 1979, ils ont annoncé après les recherches de 3 300 000 morts. Ce que je sache, c'est que ce chiffre n'est jamais reconnu par l'international. Dernièrement, c'est mon appui, ma référence principale, le résultat d'une étude lancée par l'Université de Yale aux États-Unis en coopération avec le musée de génocide S21. On a donné le chiffre de plus de 2 millions de morts. Plus de 2 millions de morts. Voilà. Donc, grosso modo, on peut dire oui, à peu près le tiers de la population totale. De la population, mais surtout, les intellectuels, les élites du pays ont été presque tous éliminés. C'est ça le problème. Donc, après les Khmer Rouges, on doit se débrouiller à partir des deux mains nues, tant bien que l'argent, que intellectuel, hein, pour redémarrer ce pays. C'était pas facile. Hein.
Mais donc ça veut dire un tiers, un Khmer sur trois n'a pas survécu à l'enfer de Pol Pot et des Khmer Rouges et de l'Ankar. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as pu passer à travers tout ça?
Comment je peux survivre à travers l'enfer des Khmer Rouges? Ça, c'est inexplicable. J'ai travaillé comme tout le monde. J'ai été torturé par tout le monde. J'ai été frappé par la maladie sans traitement, sans médicaments. Mais comment je peux survivre? Je sais pas. Moi-même pas. Je sais pas. Dans ce cas-là, je vous dis franchement, je fais croire 100% sur ce terme, le destin. Ce n'était pas mon temps de partir, donc je ne pouvais pas partir. Ouais. Mais bien sûr, j'ai vu mes deux frères et sœurs qui sont partis par l'épuisement total de l'organisme à cause de malnutrition. Alors ça, oui.
Ça, il y a ceux qui sont morts parce qu'ils ont été tués par les Khmer, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils étaient malnutris ou parce qu'ils sont morts de faim, tout simplement. Il n'y avait plus de ressources, plus rien.
Bah oui, parmi ces victimes, il y a un certain nombre, il n'y a pas de sondage ou de chiffres précises, mais bien sûr, ça c'est clair, un certain nombre de gens ont été tués directement par les Khmers Rouges, sous n'importe quelle accusation. Et beaucoup d'autres de populations civiles, surtout les femmes, les enfants, etc., qui sont morts par la manque de nourriture. Voilà, c'est ça. Beaucoup. Il y a beaucoup de gens comme ça.
Yavong, aujourd'hui tu es guide touristique, donc tu emmènes les groupes de Français, de francophones, de Belges, de Canadiens, de Québécois, aller visiter différents lieux à Phnom Penh, dont le camp, le S21, Tuong Slang, peut-être aussi les Killing Fields. Donc aujourd'hui l'histoire continue d'être enseignée, mais est-ce qu'elle est aussi enseignée dans les établissements khmers aujourd'hui, dans les écoles? Est-ce qu'on parle encore de son passé historique, ou est-ce qu'il y a vraiment cette volonté du peuple khmer d'oublier ça pour aller aujourd'hui regarder de l'avant, se tourner vers l'avant?
Oui, ce site, ce musée de génocide ex-prison Khmer Rouge, c'est visité pas uniquement par les touristes. Hein. Assez souvent, les différentes écoles, j'ai vu, les différentes écoles, universités, ils organisent la visite de ce site pour, bien sûr, pour transmettre, d'abord pour expliquer bien la cause, pour transmettre l'expérience à notre nouvelle génération, et je trouve ça très bien. Très très bien. Hein, et même dans le programme scolaire, c'est déjà, on a introduit dans le programme scolaire de cette partie de l'histoire, hein, des Khmers Rouges, 75-79, c'était qui au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., etc. Oui. Ça c'est bien.
Comment est-ce qu'on fait quand Pol Pot, donc la chute du régime, c'est en 79, hein, je ne sais plus le jour exact, hein, tu l'as cité avant, et après, que s'est-il passé? Les gens ont pu rentrer chez eux, retrouver leur logement, retrouver leur travail. Comment est-ce qu'on reconstruit, comment est-ce qu'on se reconstruit, comment est-ce qu'on reconstruit un pays quand un tiers de sa population a été décimé?
Oui, après la chute des Khmers Rouges en 79, le 7 janvier 79, les massacres ont été arrêtés. Ça y est, les massacres massifs de type Khmer Rouge arrêtés, mais la situation dans le pays n'était pas encore facile. Hein. Les batailles, les coups d'assaut lancés par l'armée vietnamienne ont été faits au mois de décembre. C'était le mois de récolte. Voilà. Donc la plupart des rizières qui ne sont pas encore récoltées ont été brûlées par les Khmers Rouges, hein, ou bien minées, etc. Le riz déjà récolté dans le grenier ont été brûlés par les Khmers Rouges. Donc, devant nous d'abord, voilà, le grand obstacle à faire face, c'est la famine dans le pays. Voilà, il n'y a pas de quoi à manger, premièrement. Deuxièmement, les Khmers Rouges qui ont été poussés de l'Est par l'armée vietnamienne vers l'Ouest. Après, ils ont divisé en petits groupes pour lancer les différentes attaques contre le régime de Phnom Penh. Encore, donc c'était encore une guerre civile. Hein. Le pays n'était pas en paix. Sur les centres laissés par les Khmers Rouges dans le pays, on se débrouillait avec les mains nues, tout d'abord pour nourrir les gens dans le pays, premièrement, et deuxièmement pour soigner les gens quand on est malade. Et ça, c'était bien grave. Hein. Pour trouver de quoi à manger après les Khmers Rouges, c'est moins compliqué parce qu'ici, on peut trouver les plantes sauvages, etc. pour manger. Mais quand on est malade, c'est bien grave, sans médicaments, sans traitement. Donc, le taux de mortalité pendant ce temps-là était très, très élevé, bien évidemment. Et surtout, comme conséquence des Khmers Rouges, il y a beaucoup de veuves qui ont perdu le mari pendant les temps des Khmers Rouges. Bien sûr, elles ne pouvaient pas travailler tant comme les hommes dans les champs, dans les rizières, etc. Les rizières, certaines régions sont encore dangereuses par les mines. Donc, alors là, la vie... L'économie du pays était zéro parce qu'il n'y a pas d'exportation, voilà, l'importation non plus, sauf quelques aides de l'Europe de l'Est parce que c'était encore un régime communiste, on peut même dire pro-soviétique à l'époque. Donc la vie était quand même très difficile. Mais malgré tout, par rapport à la vie sous les Khmers Rouges, c'est nettement mieux. On a plus de liberté. Pour faire ci, faire ça, trouver de quoi manger à volonté, etc. Oui, c'est ça. Les écoles, on doit attendre quand même jusqu'à la fin de 79, c'est-à-dire presque un an, pour rouvrir les écoles. Voilà. Et en ce moment-là, j'étais très content de pouvoir aller de nouveau à l'école. Oui, il y a des hôpitaux qui sont ouverts, bien qu'on n'a pas assez de médicaments, on n'a pas assez de médecins, mais il y a des aides des pays de l'Est. Alors que pour nous aider, donc, ces hôpitaux, par rapport à nos hôpitaux actuels, c'est très différent comme qualité, c'est trop basse, mais par rapport aux celles de Khmer Rouge, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Mais d'une année à l'autre, 81, 82, 83, 84, 85, de plus en plus des rizières sont libérées de mines de danger, les Khmer Rouge ont été plus poussés. Donc la production de riz dans le pays est de mieux en mieux pour nourrir les gens. Donc on sent de moins en moins la famine. Voilà, la situation était quand même de mieux en mieux. On a réussi quand même à exporter, on fait des échanges à cette époque-là. L'Occident, voilà, coupe les relations avec Phnom Penh, mais bon, donc on fait des relations, des échanges avec les pays de l'Est. Donc ça se démarre quand même un petit peu, l'économie du pays. Donc la vie à l'intérieur, c'est quand même de mieux en mieux. Alors, c'est pas tant riche comme maintenant, mais par rapport au passé très récent, c'est quand même mieux. Mais voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et toi, Yavong, donc comment tu en 79, tu retournes à l'école, tu disais, donc très content de pouvoir retourner à l'école. Et là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on puisse parler ensemble en français? Tu reprends l'apprentissage de la langue à ce moment-là? Qui c'est qui te l'a enseigné?
Alors, cette histoire de mon étude de français, c'est... Encore une fois, à mon avis, je crois que c'est le destin. Et comme j'ai déjà dit au début, qu'au lycée, au lieu de faire les langues comme langue étrangère, anglais, français, comme d'habitude, comme avant la guerre, j'ai fait le vietnamien et le russe. Et bien, comme il n'y avait pas de pratique, donc il ne me reste pas grand-chose. Par contre, pendant ces temps-là, malgré l'interdiction, j'ai été poussé par ma maman, toujours elle, voilà, de suivre les cours français en cachette. Certains instituteurs, institutrices qui étaient instituteurs en français de l'ancien régime pour aider un petit peu leur vie. Donc ils ont ouvert en cachette, parce que ce n'était pas autorisé, voilà, les classes français ou anglais.
Donc l'enseignement du français entre 80 et 85 n'était pas autorisé?
Non, c'est pas autorisé. À mon avis, c'est plutôt l'ambiance politique à l'époque. Donc, voilà. Donc, j'ai suivi ces cours pendant quelques mois. Et quand il y avait trop de pression de l'autorité, donc on obligeait de fermer la classe pendant, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 mois. Et après, ça recommence. Et je n'étais pas content de suivre ces classes-là parce que, comme les autres enfants, en sortant de classe, je préférais de faire le volleyball, le football, etc. Bon, j'ai quand même un petit peu notion de français. Et après, jusqu'en 1992, fin 91, début 92, en me voyant faire un petit peu d'études de français, mon cousin qui était à la direction de tourisme de municipalité Phnom Penh, il m'a proposé de travailler en tant que guide. Voilà. Pour accompagner, pour guider les touristes français. J'ai dit, non, je ne pouvais pas. Tout d'abord, je ne pouvais pas parler le français, bien sûr. J'ai appris, mais je ne pouvais pas parler, premièrement. Et c'est quoi exactement le guide? Alors, il m'a dit, ah ouais, le guide, tu amènes les touristes et pour les montrer les différents monuments, l'histoire du pays, etc. J'ai dit, tiens, l'histoire. Je ne connais pas l'histoire du pays parce que je n'ai pas appris l'histoire. Voilà, donc j'ai bien refusé. Il a dit non, essayez. Bon, si tu as fait de faute, il n'y a pas de prison pour toi. Bon, d'accord. J'ai décidé d'essayer pour ce boulot, voilà, sans même connaître c'est quoi exactement. Quel destin. Le premier couple de touristes français que j'ai rencontré, tous les deux, ils sont bouddhistes. Ils sont très doux et surtout, ils m'ont beaucoup encouragé de parler le français. De continuer ce métier. Avant de quitter le pays, ils m'ont donné plein de bouquins, les guides, Ruta, machin, etc. Et pour moi, c'était la vraie Bible. pour me débrouiller dans l'histoire, pour des différents monuments, etc. comme on dit en français, j'en ai 203. Voilà, donc après le premier groupe, j'ai commencé le deuxième, le troisième, etc. Bien évidemment, au début, je ne pouvais pas parler tant. J'ai parlé le français de manière enfantin. Hein? Auprès de ces touristes, voilà, que je considère comme meilleure école que j'ai traversée, j'ai appris, j'ai écouté les nouveaux vocabulaires, les expressions, et après je répète. Voilà, j'ai aussi appris la prononciation. Oh, ça, c'est pour prononcer le français, c'est pas évident. Hein? Votre R, votre G, c'est pas du tout le truc des Cambodgiens. Mais c'est auprès de ces touristes. Et jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans que j'ai exercé ce métier. Donc, le voilà. J'ai jamais fait d'études en France. Voilà. Voilà. Mais par contre, à un certain temps de l'année, chez moi, je parle plus français que Khmer avec ce métier. Voilà, c'est pourquoi j'ai aujourd'hui.
Qu'est-ce que la maîtrise de cette langue, de la langue française, t'a apporté dans ta vie ?
Bah oui. Bon, ben, bien sûr, avec ce métier, je ne peux sûrement pas être riche, millionnaire, mais ça me permet quand même de vivre correctement dans cette société. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les guides, ils peuvent vivre bien dans la société, mais ça dépend de la qualité dans l'ensemble. Aussi, voilà, la connaissance, le savoir-faire, bien maîtriser la langue, etc. Donc, et voilà, c'est ça.
Donc depuis 30 ans, hein, tu exerces la profession de guide. Et là, très récemment, on est passé par une crise mondiale, hein, le Covid. Donc là, tu étais privé de travail. Comment ça s'est passé pour toi pendant 2 ans où tu n'as pas pu guider de groupe ?
Eh ben oui, à cause de Covid, le Cambodge n'est pas à l'abri comme les autres pays dans le monde entier. On a traversé la période dure, les confinements, etc. Beaucoup d'entreprises, le tourisme était zéro complètement, était complètement mort. Les autres entreprises fermées, etc. Malgré les aides sociales du gouvernement, c'est pas grand chose. Mais je suis d'accord parce que le gouvernement n'est pas très riche comme les grands pays du monde. Mais quand même, j'admire quand même le gouvernement de pouvoir partager, hein, pendant ces périodes critiques. On ne peut pas aider à tout le monde, mais quand même, on a fait quand même quelque chose. Mais moi, j'ai rien reçu comme l'aide de l'État, mais je ne suis pas du tout déçu parce que je connais bien la situation du pays. Mais par la chance, dans notre société, heureusement, il y a encore une pratique qui nous aide bien les entraides entre nous, voilà, dans la famille. Voilà. Donc on partage pendant cette période difficile, au moins avoir de quoi manger suffisamment, et quand on est malade, de pouvoir trouver les médicaments, les soins, etc. Donc, ah bah oui, je suis d'accord, dans l'ensemble, c'est dur, hein, c'est dur. Mais bon, jusqu'à maintenant, j'espère qu'on a bien traversé. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton expérience. Merci, Yvan.
Je vous en prie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres, et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.